Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous partons aujourd'hui à la découverte de la pisciculture de la Mouline à la Panousse de Cernon, dont s'occupe Philippe depuis une trentaine d'années.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Philippe Seny et je suis responsable de la pisciculture de la Fédération de pêche qui se trouve à la Panousse de Cernon.
Depuis combien de temps vous êtes ici ?
Ça va faire 30 ans à la fin de l'année que je suis ici.
30 ans dans la même ferme ?
30 ans dans la même ferme, oui.
D'accord. Vous avez toujours fait ça ?
J'ai fait mes études avant.
D'accord, ouais.
J'ai fait des études en aquaculture marine à la Fac de Sciences à Montpellier. Et l'aquaculture marine ne s'est pas développée en France et je n'ai pas trouvé de travail autrement. Donc j'ai fait 2 ans dans un centre de recherche sur le brochet, la production de petits brochets. Et après, je suis venu ici pour voir la ponte. Parce que pendant mes études, la période de ponte de la truite est en hiver. Il n'y avait pas les stages à ce moment-là.
D'accord.
Je n'avais pas vu la ponte et ça m'intéressait de voir comment se produisait la ponte. Je suis resté donc 15 jours à observer la ponte simplement. Et la personne qui était responsable à l'époque m'a proposé de me prendre. Voilà.
D'accord. Et vous n'étiez pas d'ici au départ ?
Je suis de Montpellier.
Montpellier, vous n'êtes pas bien loin.
Voilà. Et j'ai trouvé une épouse à Millau.
C'est bon, ça rentre dans
voilà
les clous.
Voilà donc Aveyronnais.
Et pour peu, en étant de Montpellier, avec un peu de chance, vous aviez de la famille aveyronnaise peut-être, non ?
Je suis originaire de Lozère.
De Lozère.
De Lobrac.
Ouais. Et alors, pourquoi vous êtes intéressé particulièrement aux poissons
Déjà, tout petit, j'aimais bien... j'avais un aquarium. J'aimais bien tout ce qui était environnement. Et la pêche aussi.
Uh-huh.
Et puis j'ai fait des études scientifiques dans la mécanique.
Uh-huh.
Et puis je me suis aperçu que ça ne me plaisait pas du tout. Alors j'ai dit je vais faire quelque chose qui me plaît. La science de l'environnement, l'aquaculture. On sent vraiment qu'il n'y avait pas trop de débouchés. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais.
Mais j'ai réussi à trouver ma place. Et voilà. Et ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est qu'on fait le cycle complet, qu'on fait la reproduction.
Uh-huh.
Et voilà pourquoi je me plais dans mon métier.
Donc... Expliquons aux auditrices, aux auditeurs, vous êtes un salarié de la Fédération de pêche de l'Aveyron.
Tout à fait, oui, je suis un salarié.
Et votre mission, c'est donc de faire en sorte que les cours d'eau soient suffisamment peuplés pour les pêcheurs.
Bon, alors là, c'est pas tous les cours d'eau. Hein. En fait,
ouais.
La mission de la Fédération, elle fait d'abord des études sur le milieu.
Oui.
Je participe moi aussi à des pêches électriques dans pas mal de milieux. Pour vraiment faire un état des lieux des rivières de l'Aveyron. Sur ce constat, on s'aperçoit hélas qu'avec le réchauffement, la pollution, il y a beaucoup de zones qui ne sont plus favorables à la reproduction de la truite. Et donc dans ces zones-là, pour permettre aux pêcheurs d'attraper quelque chose, si on peut dire, on fait des lâchers de truite.
D'accord.
Qui s'adresse essentiellement aux jeunes et aux personnes plus âgées. Mais en fait, tout le monde y trouve son compte. Et moi, de mon côté, on me demande de faire un poisson qui soit beau, qui soit bon. Voilà.
Ouais.
Et c'est vraiment très, très important.
Ça représente quel volume à peu près par an ? Combien d'individus ? Combien de en poids ? Je sais pas.
Ça fait 35 tonnes de poisson.
35 tonnes.
Voilà. Bon. Et elles font 200 grammes chacune.
Voulu. Alors bon.
À l'origine, on faisait du repeuplement avec des petits poissons jusqu'à plusieurs millions de tout petits poissons de 4 cm qu'on relâchait dans les milieux. Mais là, les études ont montré que ça n'avait pas grand intérêt, qu'on ne retrouvait pas les poissons. Alors nous, le fait que ces poissons ils ont un certain coût, on essaie que tous nos poissons soient pêchés par les pêcheurs. Donc maintenant, on a répertorié des zones où on fait des lâchers. On peut trouver ça d'ailleurs sur l'office de tourisme du département ou le site de la Fédération de pêche.
D'accord.
On indique vraiment pratiquement les jours de lâcher et les zones de lâcher. Et le but, c'est vraiment que les gens attrapent le poisson et le dégustent s'ils en ont envie.
Ouais. Oui, il y a quand même un volet scientifique, étude
de
l'environnement.
Ouais, peut-être
quoi.
Plus important que le côté pisciculture. Ouais.
En volume de temps, ça vous prend plus de temps ?
Moi, la pisciculture, je suis à plein temps, mais sur l'ensemble des salariés, on est 14 salariés.
D'accord.
À travailler par rapport à vraiment la pisciculture et les poissons. On est 2 probablement sur le site, plus 2 autres qui transportent les poissons.
D'accord.
Donc on est 4 à travailler sur 14.
Ah.
Les autres missions sont vraiment de la protection du milieu, donc l'étude du milieu. Et il y a toute une équipe aussi d'animateurs qui encadrent les jeunes pour leur apprendre aussi à respecter la nature, à la comprendre et à pêcher aussi.
Quel cours d'eau vous avez en charge quand vous...
Tout le département.
Tout le département.
Oui.
Non mais vous là, vous n'allez pas alimenter les cours d'eau du Nord Aveyron.
Si.
Ah oui.
Si.
Oh là là. Ah, c'est pour ça que les volumes sont si gros quoi.
Hier le camion est parti à Uparlac.
D'accord.
Après il était parti à Cap de Nac.
D'accord.
Voilà. Même jour,
êtes,
hein.
Vous êtes le seul en Aveyron
On n'a plus qu'une seule pisciculture fédérale.
D'accord.
C'était la plus grosse au départ, c'est là où on faisait la reproduction. On a conservé celle-là, on a fermé les deux autres parce qu'on avait des problèmes d'alimentation d'eau.
Et donc ici, vous avez des reproducteurs, des reproductrices. Donc vous partez de l'œuf jusqu'à le faire à arriver à maturité.
Voilà.
À l'âge de se reproduire, quasiment.
Voilà, les géniteurs sont... Ils ont presque 3 ans quand on va les utiliser. On va les sortir de leur bassin et on va séparer mâles et femelles dans deux bassins différents. Parce que les femelles, il va falloir les passer toutes les semaines pour contrôler le ventre et voir la maturité des ovules.
D'accord.
C'est-à-dire on appuie légèrement sur le ventre et on fait sortir les ovules. Ils doivent sortir tout seuls.
Ouais.
S'ils ne sortent pas tout seuls, c'est qu'ils ne sont pas mûrs. Et quand ils sont mûrs, donc là, on endort le poisson. Une fois qu'il est endormi, on le sort, on le sèche, on appuie sur le ventre, on enlève tous les ovules et on le remet délicatement dans l'eau. Et là, au bout de 2 minutes, il va se réveiller. Il ne va pas s'apercevoir qu'il a perdu un gros pourcentage de son poids.
À part qu'elle a, voilà, qu'elle a maigri et tout.
Ah ouais, chaque truite a fait à peu près 1000 œufs, hein, quand même.
1000 œufs.
Et donc là, à partir de ça, ce sont des ovules, hein, ce ne sont pas des œufs.
Ouais.
Il faut prendre les mâles. On appuie sur le ventre aussi. Là, ce sont les spermatozoïdes qui sortent. On mélange l'ensemble. On va rincer le tout et on va les mettre à incuber dans des seaux à l'intérieur où l'eau circule à travers. Et là, ils vont rester pendant un mois.
D'accord.
Alors, tout ça, c'est parce qu'on a de l'eau à 11 degrés. Ça dure un mois. Sur l'Aubrac, où l'eau est à 2 degrés, ça va durer 4 mois.
Oui, combien de temps ça vit alors les truites que vous gardez pour la reproduction? Est-ce que vous gardez tout le temps les mêmes truites pour la reproduction quand vous en avez trouvé?
Je les change chaque année.
Chaque année, vous changez?
Chaque année, je les change. Elles se reproduisent une fois et après, elles sont relâchées avec les autres.
Très bien. On s'est estimé la durée de vie d'une truite si elle n'est pas pêchée?
Ah non, c'est un peu compliqué. C'est sûrement une dizaine d'années, mais...
D'accord.
Mais la moyenne est très très basse.
Ouais.
Dans la nature.
Et donc, c'est quelle espèce de truite ici?
Alors, c'est de la truite Fario et de la truite arc-en-ciel.
Arc-en-ciel. Ah. C'est la plus courue, non, l'arc-en-ciel?
Alors, l'arc-en-ciel, c'est une truite d'origine américaine, hein, qui vivait d'origine avec dans les Rocheuses aux États-Unis. Voilà, et qui a été plus facile à élever. Elle
D'accord.
est beaucoup plus facile à élever. Elle nage vraiment en plein eau. Elle a moins de maladies. Par son comportement, sûrement. Elle est beaucoup plus facile à élever, donc, et en plus, elle a une bonne croissance. Donc, à un an, on arrive à faire du poisson. Et le fait qu'il soit moins stressé, même, il va être meilleur à manger que la truite Fario.
Ah.
Donc, la truite Fario, il nous faut 2 ans, beaucoup plus de soins, beaucoup plus de nettoyage, beaucoup plus de pertes, hélas. Voilà. Alors que par contre, la truite Fario, évidemment, c'est la truite qu'ils avons naturellement dans nos ruisseaux.
Mmh.
Et donc, elle est très prisée des pêcheurs.
Sur une production de 1000 œufs, vous savez, ils ne sont pas tous fécondés, j'imagine?
Non, il y a une partie qui ne vont pas être fécondées.
Vous l'évaluez à combien, cette partie, à peu près?
Moi, j'en ai 90%, 90, 95% qui sont fécondés. Voilà.
Oui, c'est un bon
rendement. Après, la survie, elle va être de 80% pratiquement pour l'arc-en-ciel et 60% pour la Fario. La survie jusqu'à avoir un petit alevin de 4 cm prêt à sortir dans les bassins qui sont à l'extérieur.
Mmh.
Donc, il y a une très bonne survie.
D'accord.
Alors que dans le milieu naturel, c'est 2 pour 1000.
Ouais. Ah oui. Ah ouais.
Un poisson va prendre 1000 œufs et il n'y aura que 2 petits qui vont
D'accord.
arriver adultes.
Ah ouais, donc.
Il y a une énorme.
Beaucoup de pertes.
Bah, il est vrai que si on observe déjà à l'éclosion, il y a beaucoup d'œufs des petits qui sortent tordus.
Ah.
Hein, ils sont enroulés sur eux-mêmes et il ne sort pas un petit poisson, chez la truite, il sort une larve. Il sort une larve, une sorte de tétard avec un gros ventre.
Uh-huh.
Il ne mange pas, même au début, il ne respire pas vraiment avec les branchies. Tout se fait avec cette poche.
Ah, c'est particulier à la truite, ça?
Il y a d'autres poissons qui le font, mais il y a des poissons qui sortent déjà poissons.
Ouais.
Ça sort vraiment une larve et il va falloir 15 jours pour résorber cette poche. Et il y a formation de l'estomac, de la respiration, donc des branchies.
Ouais. Un peu comme le tétard qu'on a étudié à l'école quand on était petit.
Voilà, ouais, il y a encore des transformations quoi, avant qu'il soit poisson. Okay.
Combien y a-t-il de bassins au total sur la Mouline?
Alors, dehors, il y en a 12 en béton et une douzaine en terre aussi. Et à l'intérieur, il y en a une quarantaine.
Il y a 40 bassins,
40 dans le bassins à l'intérieur, oui. Ils ne sont pas tous des mêmes tailles. Hein. Et là, le plus grand, il fait 50 mètres sur 4 mètres à l'extérieur. Le plus petit, il doit faire 12 mètres par 4. Voilà. Et à l'intérieur, ils font tous 4 mètres sur 50 cm.
Donc, les bassins à l'intérieur, c'est pour l'incubation, c'est pour le...
L'incubation des œufs, elle se fait dans des seaux, carrément. Ouais. Et après, c'est l'alevinage. Donc on fait éclore les poissons dans une auge qui fait donc à peu près 4 mètres sur 50 cm, dans très peu d'eau. Ouais. Et on règle la hauteur d'eau au fur et à mesure que le poisson grandit.
D'accord. Et donc, vous m'expliquez tout à l'heure qu'on a beau être au bord du Cernon, vous prenez l'eau d'une nappe phréatique.
Voilà.
Une résurgence qui est juste. C'est pour ça que le site a été choisi.
C'est pour ça que le site a été choisi. D'accord. Alors, ce site, avant, il appartenait à Roquefort. C'était la cave Le Brou. Ceux qui connaissent un peu Roquefort, ouais. Là-bas, ce nom est connu. Et comme le Roquefort, il faut absolument le faire sur le site de Roquefort pour l'appellation. En 71, ça a été vendu et la Fédération de pêche a racheté donc les bâtiments et a créé les bassins et en utilisant cette source. Avant, a été utilisée pour faire tourner des turbines. On retrouve d'ailleurs sous les bâtiments, là-bas, il y a des bassins en sous-sol. Donc l'eau qui est à 9 mètres au-dessus du Cernon, elle descendait naturellement et elle faisait tourner les turbines. Ça refroidissait les frigos. Voilà. Et nous, on utilise l'eau, par contre, pour élever nos poissons.
Pour les poissons.
Et cette eau est tout le temps à 11 degrés.
Tout le temps,
le débit minimum à peu près 200 litres à la seconde. Ouais. Le maximum, c'est quand il y a des crues, ça monte à 2-3 000 litres à seconde.
Wow. Ouais, ouais.
Ah oui. Et la moyenne est à 500 litres à la seconde.
D'accord.
C'est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà pas mal, 500 litres à seconde.
Sachant qu'une baignoire, ça fait 200 litres, ça fait deux baignoires et demi chaque seconde.
Par seconde. Ouais, ça va vite après.
Et de l'eau toujours à 11 degrés.
Et donc, il y a un système, l'eau ne circule pas de bassin en bassin.
Non.
Non.
Non, non, elle traverse un bassin, puis après elle part au filtre.
D'accord.
Avant d'être remis dans le...
Ça évite comme ça les contaminations éventuellement.
Tout à fait, oui, d'un bassin à l'autre.
D'accord.
Et là, on peut observer qu'à chaque bassin, il y a une petite épuisette et il y a un balai à chaque bassin.
Oui, c'est pour vérifier la bonne santé, la qualité de l'eau.
Voilà, mais quand on fait toutes les semaines, je nettoie mes bassins, là, je vidange. J'enlève des plaques qui permettent de descendre le niveau d'eau.
Ouais.
Ça fait un rinçage. Ouais. Et donc, ça permet d'avoir un bassin très, très propre. Les truites ont besoin vraiment de vivre dans des eaux très, très claires, très
D'accord.
propres.
Okay.
Donc, c'est important de faire des nettoyages réguliers. Et ça évite aussi à la rivière d'avoir une surcharge en faisant de façon régulière. On relâche pas grand-chose.
Ouais.
Donc, tout passe dans le filtre. Le filtre, ça permet d'enlever toutes ces particules, de les mettre dans le décanteur. Et après, on le pompe dans le décanteur et on va les pendre dans des champs.
Et on maîtrise bien la physiologie du poisson. On sait bien le soigner, on sait bien le comprendre.
Ouais, il n'y a pas trop de travaux sur la truite parce que c'est un métier qui est en train de s'oublier. Mmh. On est de moins en moins nombreux à pratiquer ce métier.
Ouais.
Je crois que ça c'est depuis que j'ai commencé, ça a divisé par deux en France. Et,
d'accord.
Donc on devait être 800, je ne sais pas si on n'est pas plus que 400 maintenant. Pisciculture, quoi.
Ouais.
Sur toute la France. La production même française a baissé. La consommation, non, mais...
Oui, qu'ils s'en vendent du poisson.
Et voilà, ça veut dire qu'on achète du poisson à l'étranger.
Ouais.
Mais nous, les conditions sont vraiment difficiles pour faire du poisson. On a des contrôles permanents, on a des obligations...
Ouais, ça devrait être un gage de qualité quand même, ça devrait rassurer les consommateurs, je me dis.
Oui, mais c'est un coût énorme pour le pisciculteur.
Ouais.
Il
ne
vend pas son poisson assez cher. Pour.
Ouais.
Moi, j'ai la chance de travailler pour une fédération de pêche. Le poisson, on ne cherche pas vraiment à le vendre, on ne le vend pas, puisqu'on le relâche dans le milieu naturel. Donc, on peut chercher la qualité et travailler sans chercher à faire de la viande, du poids.
Quelque part, vous, votre base de revenus, c'est quand les pêcheurs prennent la carte de pêche,
auprès
de la Fédé.
C'est le revenu essentiel.
Voilà, ça sert à ça de payer sa carte de pêche.
Ouais. La carte de pêche, elle permet de travailler donc la reproduction des truites et de faire des lâchers, et aussi de travailler sur les milieux naturels et de les défendre.
On va passer aux questions philosophiques, si vous le permettez. J'en rajoute quand je dis ça. Alors, ce métier donc, que vous faites depuis une trentaine d'années, peut-être que vous avez des fois des stagiaires qui viennent vous voir ou autre. Est-ce que vous le conseillez, ce métier? Et si oui, sur quoi vous mettrez en garde un jeune qui veut se lancer en pisciculture ?
Mais comme je viens de le dire tout à l'heure, le nombre de pisciculteurs diminue, le nombre de places diminue. Alors c'est difficile de former beaucoup de jeunes à ce métier s'il n'y a pas de place.
Ouais.
Et pour se lancer, pour créer une nouvelle exploitation, c'est lourd.
Ouais. C'est lourd. C'est des gros investissements.
C'est des gros investissements et puis des établissements qui sont dit classés. Mmh. Parce qu'il y a un risque par rapport à l'environnement. Donc il y a énormément de contraintes dessus. Et les autorisations, c'est vraiment difficile à les avoir.
Ouais.
Donc souvent, c'est plus facile de racheter une pisciculture qui est déjà autorisée et qui fonctionne. Mmh. Il y en a de temps en temps à vendre. Voilà. Et je pense qu'il faut chercher à travailler aussi en bio, en petite quantité, en faisant de la qualité. Mmh. Voilà, et pas chercher à faire des grosses quantités parce que les prix s'écroulent. Quoi.
Les prix s'écroulent.
Les prix s'écroulent sur les grandes quantités. Et ouais, ça devient très compliqué.
Ouais. Et alors, vous qui êtes dans ce milieu depuis une trentaine d'années, là encore, dans l'agriculture, le travail du vivant, est-ce que vous avez une idée de la tournure que va prendre l'agriculture dans les années à venir ? Et eu égard à ce que vous connaissiez d'avant, de ce que vous voyez maintenant, à votre avis, on se dirige vers quoi ?
Ah ben là, en ce moment, on est quand même en train de se diriger vers le bio, hein, puisque on se rend compte que c'est important avec le fléau qui nous arrive en plus, on comprend qu'on est allé trop loin dans certains domaines. Donc il va falloir travailler local, bio. Je pense que notre département, il est pas mal parti là-dessus. On a la chance d'être dans un tel milieu. Voilà. Pour le confinement, tout ça, on ressent moins aussi les effets. Quelle chance qu'on a d'être là.
Oui.
Au-dessus de la rivière, je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Je lui ai dit, pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent, les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Après, je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. C'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. Faire tous les bruits qu'elle veut. Y'a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut. Oh, elle m'a dit. Elle a dit justement, c'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir là. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cave. seulement de la place pour deux. Cette route ne mène nulle part, alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. On va comparer nos malheurs. J'ai un peu de chaleur là dans la cabane du pêcheur. Moi, j'attends que le monde soit meilleur là dans la cabane du pêcheur.
Et là, on va faire, on va aller voir la résurgence. Alors, au passage, là...
Oui, je vois tous les poissons. Il y a à peu près combien de poissons, là, dans ces bassins?
Dans celui-là, il y a 25 000 poissons.
25 000.
Voilà, et dans chacun, il y en a 25 000.
C'est un bassin qui fait quoi, 30 mètres par 5?
Voilà, 30 mètres par 4.
Par 4.
Voilà, il y en a 3, un bassin, là. Et ouais. C'est là où on a le petit fario pour l'année prochaine.
Et c'est marrant, ils viennent toutes s'agglutiner vers nous.
Ah, mais ils ont toujours faim. Mais si je m'approche un peu, comme ce sont des farios, elles vont repartir. Elles vont repartir. Hein. Alors que si c'est des arcs-en-ciel, elles s'approchent et elles restent là, on peut mettre la main, mais elles vont nous titiller les doigts. Et que là, elles sont vraiment craintives. Et maintenant, elles viennent me voir pour manger, mais
ouais, là, c'est
long, il leur faut un an à peu près pour venir manger à la main, si on peut dire.
D'accord.
Voilà. Et ouais. on leur donne à la main quand même.
Vous les nourrissez combien de fois par jour?
Là, je les donne 3 fois à celle-là.
Ouais.
Et il y en a qui mangent qu'une fois par jour.
D'accord. Voilà. Ça dépend de la taille.
De la taille. Voilà. Et à l'intérieur, il y a les petits poissons, ils mangent 4-5 fois.
D'accord. Ouais, j'imagine que la relation avec le poisson, c'est pas. Ça, comment dire, ça s'arrête vite, quoi. Autant il y a des paysans, ils ont l'impression qu'il se passe quelque chose avec leurs bestioles.
Non, ça, je parle pas vraiment mes poissons, mais je les observe, le comportement tout le temps. Ouais. Parce que c'est là où on voit s'il y a un souci de santé, s'il y a un truc qui va pas.
Ouais.
Alors les poissons, là, ils sont très calmes.
Ah oui,
c'est normal, ça dépend des espèces aussi.
Mais il y en a, ils nagent même pas. Voilà, je croyais qu'il fallait qu'il nage pour respirer.
Ah, pas tous. Ah. Pas tous, non.
Donc, on passe de bassins en bassins.
On va passer sur le bord parce qu'il y a des fuites d'eau de partout.
D'accord.
Il vaut mieux être en botte.
Ah, ben oui, je sais. Oh, j'ai pris les chaussures pourries. Hein.
Là, on voit plein de bassins avec des...
Oui, certains sont vides.
Voilà, parce qu'ils sont partis.
D'accord, eh ben oui. Ça vous donne l'occasion de
nettoyer
le bassin.
Nettoyer à chaque fois, ouais, c'est le gros
ouais.
travail.
Ouais, y en
le
un,
pisciculteur, il passe son temps à nettoyer.
C'est ça la résurgence.
Non, ça c'est pas la résurgence. Ah. C'est la chute d'eau qui, après la résurgence,
d'accord.
permet d'enlever les gaz.
Ah oui.
Sous. Parce que l'eau, elle arrive sous terre, là. Et la pression des pluies, c'est que dans les poches des grottes, des fois l'azote se met dans le CO2 se met dans l'eau. Et quand il ressort, l'eau est chargée en CO2 et en azote. Et ça pose des problèmes pour les poissons, sur les yeux, sur les branchies. Donc il faut dégazer.
D'accord. Donc de lui faire faire une chute comme ça, ça permet de faire partir le gaz. Ok. Il y a un gros débit. Hein. Au cristalline. Et donc là, on arrive à la résurgence. Donc,
alors on a l'impression d'avoir un étang.
Oui, on a un bassin là.
Un petit bassin qui est tout simple. Il est à peu près profond de 2 mètres aux endroits les plus profonds. Hein. C'est une dalle. Et à l'horizontale, en fait, il arrive comme d'une grotte là-bas.
Oui, là-bas au fond.
Il arrive de l'eau. Il arrive de l'eau et le débit est quand même important. On ne se rend pas compte. Tout passe dans un tuyau sur le côté.
Il y a tout ce qui part là-bas. Là, et il y a encore du surplus.
Là, il y a un trop-plein, une partie du surplus qui est repris. Et vous voyez cet appareil-là, il mesure le débit. Et il est mesuré en permanence par le parc des Grands Causses qui surveille cette résurgence, qui surveille la qualité de l'eau. Nous avons aussi un bâtiment derrière, là. Il y a des préleveurs d'eau qui sont là en permanence. Et le parc des Grands Causses vient faire des relevés tout le temps.
D'accord.
Et d'ailleurs, sur toutes les sources.
Et en quoi ça les intéresse, la qualité de l'eau?
C'est la ressource du Larzac, c'est la ressource...
D'accord. Et pour savoir aussi
la
ressource
en eau.
Le degré de remplissage des nappes, peut-être qu'ils arrivent à deviner.
Oui, entre autres, ça, regarde s'il n'y avait pas des problèmes de pollution.
D'accord.
Et par exemple, nous, quand on a fait créer l'autoroute au-dessus, là, il n'est pas très loin l'autoroute là. Mais nous, on n'a pas d'impact par rapport à l'autoroute parce que notre bassin versant, qui a été mesuré par les géologues, ne va pas sur celui de l'autoroute. Donc du coup, on est un peu la référence. S'il y a une variation d'un élément dans l'eau des sources autour de l'autoroute, on va venir voir ici s'il y a aussi cette variation.
Okay. Ici, c'est une garantie d'eau plus ou moins pure.
Ah oui, ben moi, je bois cette eau depuis 30 ans.
Ah oui,
sans la traiter. Oui, on peut prendre un verre et boire là.
Ah ouais.
Il y aura quelques bactéries coliformes de temps en temps, puisqu'il y a des élevages de brebis.
Un petit risque de diarrhée, donc.
Voilà, il y a des brebis qui sont en pâture là-haut.
Et nitrate et tout. Donc.
Mais vraiment, mais comme ça ne filtre pas, c'est le Larzac, hein, au-dessus de nous, c'est le Larzac. Donc l'eau rentre directement jusque dans les. Dans le lac souterrain, parce que dessous c'est vraiment un grand réseau de lac souterrain.
D'accord.
Pour avoir ce débit toute l'année.
Oh, c'est fou.
Là on voit le canal qui va lui partir à l'ancien moulin.
D'accord. Donc il y a une partie qui est dédiée au bassin.
Voilà.
Et une autre qui est au bassin extérieur.
Il y a un canal qui part là, il y a un canal qui part là. Il y a un tuyau qui ramène de l'eau aussi.
Ça a été fait quand ça, vous m'avez dit, en 71 ?
71. Oui.
D'accord. Et est-ce que vous avez du temps pour vous dans ce métier-là? Est-ce que vous prenez des vacances
Oui, mais parce que je suis salarié.
Eh oui, c'est ça.
J'aurais pas été salarié, je sais pas comment on fait. Il y a toujours quelque chose à faire.
Oui, parce que je vois les paysans en général, s'ils prennent 15 jours dans l'année, c'est le bon.
Donc je suis salarié, on est deux à travailler ici. Mon collègue fait principalement la distribution des poissons. Donc là, il est parti avec le pick-up et la remorque derrière. Pour aller lâcher les poissons. Mmh. Il va y mettre toute la journée, il fait ça toute la semaine. Et un week-end sur deux, il me remplace la pisciculture. Et puis à l'automne, il m'aide à la ponte. Donc à l'automne, il n'y a pas de distribution de poissons, c'est que pendant la période de pêche. Ouais. Donc de mars à septembre.
D'accord.
Et l'été, on lâche pratiquement plus, les eaux sont trop chaudes. On lâche très peu de poissons l'été. Quelques zones où on le fait, mais. C'est surtout vraiment au printemps où on lâche beaucoup de poissons. Et donc à l'automne, il reste avec moi et c'est là qu'on fait la ponte. Les arcs-en-ciel, ici, elles se reproduisent au mois d'octobre. Et les farios, c'est en décembre, là, quand il fait bien bon à la pisciculture. Et pour les livraisons, il y a deux autres personnes qui viennent de la fédération qui avaient des pick-up et qui prennent des remorques et qui amènent des poissons. Donc ils sont trois. À relâcher les poissons. Et moi ici, je leur prépare les poissons tous les matins. J'attrape les poissons, je les compte et je les mets dans ce qu'on appelle les bassins de stockage. Mmh. C'est des bassins où on les stocke une nuit. Le lendemain, ils sont chargés direct dans le camion. Mmh. Et le but, c'est aussi de pratiquement jamais sortir le poisson de l'eau, ne pas le peser à sec, tout ça.
Ouais,
et heureusement, tout le temps dans l'eau. Okay. J'ai fabriqué un.
Et c'est pour ça que les bassins de stockage sont situés juste à côté des bassins. Au bord de la route, entre le.
Donc les pick-up se mettent sur le côté et ils attrapent avec les puzettes les poissons et les mettent directement dans le bassin en eau.
D'accord.
Et moi, j'ai une cuve qu'on aperçoit là-bas avec un système de grue dessus et je descends ma cuve pratiquement au fond du bassin où j'ai baissé le niveau et j'ai mis ma cuve presque pleine d'eau. Je tare. Je connais le poids de mon poisson, puisqu'il est à peu près à 200 grammes. Mmh. Et je mets mes poissons directement, vraiment du sol. Là, il n'y a pas 30 secondes. Donc les poissons, ils sont vraiment dans l'eau tout le temps. Ouais. Et ça, vraiment, pour le bien-être des poissons, c'est vraiment ce système est très, très bien. Parce que, ceux qui font pas, il y en a qui, des fois, qui sont obligés de les peser dans une balance. Et du coup, ils sont un peu écrasés, et puis ils s'émoussent. Ouais. Et quand on les met dans l'eau, après, ils sécrètent du mucus. Ouais. On est obligé de rincer l'eau, c'est plus compliqué, et donc ça prouve que le poisson il a eu un malaise. Okay. On dit que nous, vraiment, on fait vraiment attention à ça, et c'est plus facile finalement pour le gars qui va transporter des poissons d'avoir des poissons qui sont en bon état.
Ouais.
Et voilà, il surveille bien le niveau d'oxygène, et le voyage se passe très bien. On a très rarement eu des pertes, mais voire, c'est vraiment exceptionnel, ça arrive même pas une fois par an.
Uh-huh.
Alors qu'il y a quand même trois véhicules qui partent tous les matins.
Ouais, c'est ça. Puis c'est des milliers d'individus par véhicule.
Des milliers. Ouais. C'est à peu près 200 000 poissons le total.
Ouais, quand même. Ah,
qui s'en vont.
Ouais. Bon, est-ce qu'on a fait le tour là?
Oui, on va aller voir la salle.
Allez.
Là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de bruit.
Il va y avoir beaucoup de
bruit. Plus parler. Et nous, il n'y a pas grand-chose, vous avez vu, qui fonctionne avec l'électricité.
Ouais, ouais. Ça, c'est
tout,
bien.
Tout est un peu naturel.
Ça limite la maintenance.
Voilà.
Quoi.
On a vu qu'il y avait, sur un bassin, il y a des aérateurs. Ce sont des appareils avec une hélice qui prend l'eau et qui l'envoie en l'air. C'est quand il n'y a pas assez de débit, ça, pour, voilà, pour augmenter le taux d'oxygène dans l'eau. Et nous, on a, depuis 3-4 ans, là, ben, on les utilise très rarement parce que finalement, on a assez d'eau.
Bon, mais super. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Nous remercions Philippe pour ses éclaircissements sur une activité peu connue. Vous pouvez retrouver ce programme et bien d'autres encore sur le site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.